Audrey et Julien sont des tout jeunes mariés, n'est-ce pas? Ça va faire presque un an qu'ils sont mariés. Donc c'est beau de pouvoir avoir leur témoignage sur cette question-là, sur la question du mariage, question de la sexualité. Et puis moi, je vais commencer par vous introduire à la théologie du corps de Jean-Paul II. Alors c'est un enseignement, mais c'est en même temps le témoignage d'un coup de foudre, en fait, que je voudrais vous partager, parce que il y a 5 ans, j'avais lu le livre de Yves Semaine, intitulé « La sexualité selon Jean-Paul II ». Et c'est une très bonne vulgarisation, en fait, de la théologie du corps de Jean-Paul II, des 700 pages de catéchèse. Donc quand j'ai lu ce livre, j'ai eu envie d'aller voir après les catéchèses de Jean-Paul II. J'ai lu ça et j'ai été vraiment éblouie. Je me suis dit, mais l'Église a un trésor extraordinaire sur la question de la famille, la question de la sexualité, la question du mariage. Et en fait, c'est très peu connu, quoi. Voilà. Alors là, en une heure, je peux pas vous faire une présentation organique de tout le mystère de la théologie du corps de Jean-Paul II, mais je vais essayer de vous donner quelques pistes qui sont comme autant de perles. Enfin, pour moi, ça a été des perles. J'espère que ce sera des perles pour vous. De ce mystère-là. Alors, il faut bien voir que pendant 2000 ans, la question du mariage, la question de la sexualité a été vue dans l'optique d'une philosophie naturelle. C'est-à-dire qu'on se posait la question, quelle est l'intention de la nature par rapport à la sexualité? Quelle est l'intention de la nature? C'était clair, hein. Pendant 2000 ans, on s'est dit, alors Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin et beaucoup, enfin toute l'Église, quoi, qui disait, les fins premières du mariage, c'est premièrement la procréation et puis l'éducation des enfants. Et les fins secondaires du mariage, ça va être le secours mutuel des époux. Et ils appelaient ça un remède à la concupiscence. Concupiscence, hein, c'est pas un vilain mot. C'est le désir sexuel livré à lui-même, non ordonné à sa finalité, en fait. Et ça, c'était l'optique qui était vue. C'est Saint Paul qui dit « il vaut mieux marier que de brûler ». Alors on se disait « bon, ben on se marie, quoi ». Et ça a été vu pendant 2000 ans comme ça. Et la vraie révolution, je dirais, de Jean-Paul II, c'est de prendre un angle d'approche, une perspective d'approche qui était complètement différente. Et au lieu de se poser la question de se dire, mais quelle est la finalité naturelle du mariage, il va se dire, mais quelle est l'intention de Dieu? C'est-à-dire, resituer sur le plan théologique. Quelle est l'intention de Dieu? Quel est le rêve de Dieu? Quel est le désir de Dieu quand il a créé l'homme et la femme et le mariage? Donc, on va retomber sur des réalités qui sont proches, mais en même temps, une perspective d'approche qui est tellement différente que ça donne un éclairage nouveau. Voilà. Alors, puisqu'il se pose la question, quelle est l'intention de Dieu? Il a été ouvrir la Bible, n'est-ce pas? Et il s'est appuyé sur Matthieu 19, 3, 9. Donc, je vous invite, si vous avez votre Bible, autrement, je vous le lis. Matthieu 19, 3, 9. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent pour le mettre à l'épreuve, « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Donc, la question du divorce. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit, « Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. » Donc là, c'est le rappel par le Seigneur de l'indissolubilité du mariage. « Pourquoi donc, lui disent-ils, les pharisiens, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie ?»« C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme, pas pour prostitution et en épouse une autre, commet un adultère. Alors, vous voyez bien le schéma, là, c'est Jésus se retrouve finalement en face des pharisiens et c'est dans une perspective légaliste de dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller pour que ce soit, voilà, qu'on soit encore en règle avec la loi. Et le Seigneur va pas du tout se mettre dans cette perspective-là de la loi, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, il va nous dire, je sais pas si vous avez remarqué dans le texte, 2 fois il nous dit, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Donc, il sort de la question de la loi et il nous dit, revenez au plan de Dieu à l'origine, avant le péché originel. Et là, vous comprendrez quelle est l'intention de Dieu sur le mariage. Voilà, ça c'est l'optique qu'il prend. Et donc, on va revenir à la Genèse, on va suivre l'invitation de Jésus à revenir à l'origine. Et donc, on peut prendre le premier récit de la Genèse, Genèse 1, 26. 28.